Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. On a vraiment passé un moment béni dans la présence de Dieu ce matin. Et je pense que c'est quand on va rentrer chez nous, il faut encore garder ça et transmettre autour de nous ce qu'on a reçu vraiment ce matin. C'était vraiment un temps béni. Gloire à Dieu. Alors, je vais vous partager un sujet ce matin qui est délicat, mais je pense que c'est important de pouvoir en discuter. Et je vais vraiment apporter ça avec humilité et vraiment, je vais prendre des passages qui sont dans la Bible qui sont très clairs par rapport à cela. Hein. Donc voilà, mais le but, c'est pas de mettre une culpabilité ou autre, mais c'est vraiment de méditer, de chercher la face de Dieu et d'ouvrir les yeux aussi parfois à ce que parfois le monde peut nous proposer ou nous influencer. Et le titre de le thème ce matin, c'est « Attention aux fausses idées, car la condamnation est réelle ». Parce que parfois, on a des idées, mais qui sont peut-être pas vraiment comme la Bible pourrait le croire, ou parfois on est à fleur de peau par rapport aux bonnes idées de la Bible, et des fois, on est quand même à côté. Et quand on regarde dans le Nouveau Testament, les disciples, ils avaient beaucoup de combats. Donc on sait très bien qu'ils avaient le combat contre la persécution, mais ils avaient un combat qui était très difficile également. En plus de subir la persécution, ils avaient un combat contre les fausses idées qui voulaient s'immiscer dans l'Église et qui voulaient pas être en harmonie avec ce que Jésus avait fait pour nous sur la croix. Et on voit plusieurs passages, mais là ici on va se concentrer sur Colossiens 2, versets 8 à 15. Donc ça, c'est l'apôtre Paul qui parlait à l'église de Colosse. « Faites attention que personne ne vous prenne au piège par la philosophie, par des tromperies sans fondement qui s'appuient sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires qui régissent le monde et non sur Christ. En effet, c'est en lui qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. C'est en lui aussi que vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite de la main de l'homme, mais de la circoncision de Christ qui consiste à vous dépouiller du corps de votre nature pécheresse. Vous avez en effet été ensevelis avec lui par le baptême et vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui, par la foi en la puissance du Dieu qui l'a ressuscité. Vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de l'incirconcision de votre corps, il vous a rendu à la vie avec lui. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions et il l'a annulé en le clouant à la croix. Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. » Il faut bien retenir ça, par la croix. « Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou à propos d'une fête, d'un nouveau mois ou du sabbat, tout cela n'était que l'ombre des choses à venir, mais la réalité est en Christ. Que personne, par son goût d'une fausse humilité et du culte des anges, ne vous prive de la victoire. Plongé dans ses visions, un tel homme est sans raison enflé d'orgueil sous l'effet de ses pensées toutes humaines. Et il ne s'attache pas à celui qui est la tête, c'est pourtant d'elle que tout le corps, bien nourri et solidement assemblé par ses articulations et ses liens, tire la croissance que Dieu donne. Vous êtes mort avec Christ aux principes élémentaires qui régissent le monde. Pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous soumettez-vous à toutes ces règles ? Elles ne concernent que des choses destinées à disparaître dès qu'on en fait l'usage. Il s'agit bien là de commandements et d'enseignements humains. Ils ont en vérité une apparence de sagesse, car ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucune valeur et ne servent qu'à la satisfaction personnelle. Amen. C'est fort, hein ? Franchement, on pourrait prendre chaque verset et les étudier pendant des heures. Mais regardez comment Paul a annoncé les choses. C'était quelque chose de fort parce qu'en fait, il y avait un contexte particulier à l'époque. Le contexte de l'époque, c'était que Paul s'adressait aux Colossiens et il veut mettre en garde l'hérésie qui se passe à Colosse. Sur ce passage, il parle de la circoncision, mais plus loin dans les textes, exemple au verset 19, il remet en place la vraie nature de Christ. Colosse avait reçu des enseignements faussés sur Christ. Ces enseignements plaçaient Christ comme inférieur à Dieu. Paul contrecarre les fausses doctrines d'après lesquelles, pour obtenir le salut, il fallait associer la foi en Christ à des connaissances secrètes et des règles humaines concernant des pratiques physiques et externes. Et aujourd'hui, dans ce monde, quand on voit certaines religions, ou même certaines façons de penser, on est toujours dans le mérite. On est toujours dans « il faut faire ci, il faut faire ça ». Et là, Paul, il a éclairci des choses qui sont très importantes. À l'église de Colosse, il y avait des dérives qui s'éloignaient un petit peu par rapport au sacrifice de Jésus. Il a remis en place certaines choses par rapport à la circoncision, par rapport à l'alimentation, par rapport au respect des fêtes religieuses. Il disait, vous ne laissez pas influencer, parce que tout est en Christ. Il encourageait les gens à regarder en Christ. Et ça, c'est important. Il faut qu'on regarde en Christ. C'est Jésus-Christ qui nous a libérés. C'est pas nos rites, c'est pas toutes ces choses-là. Après, forcément, il faut un bon équilibre. Mais l'apôtre Paul a dû être obligé de remettre en place ces choses-là parce qu'il y avait une dérive. Et si Colosse restait dans ces dérives-là, ben nous aujourd'hui, on pourrait être dans ces dérives-là. Mais Paul avait une responsabilité. Et c'était dangereux pour lui de remettre en place ces choses-là. Parce que si les personnes n'avaient pas la même idée que lui, ou la même révélation que Jésus lui a donnée, bah, ils pouvaient se faire chasser de l'église. On pouvait lui dire bye bye. Et parfois on se retrouve dans des situations comme ça. Mais il y avait une dérive qui était très très forte. À l'époque, ça s'appelait comme ça, c'était le gnosticisme. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du gnosticisme. Alors, je ne sais même pas si ça se prononce exactement comme ça, veuillez m'excuser. Mais en tout cas, il y avait le gnosticisme. Et en fait, c'était ça. Les siècles qui ont suivi la mort de Jésus ont été remplis de diverses hérésies. Et l'une des plus répandues à l'époque était le gnosticisme. Le gnosticisme vient du grec gnosi, qui signifie connaissance. Connaissance. On aime bien avoir de la connaissance. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà retrouvé face à des personnes qui aiment avoir beaucoup de connaissances. Et parfois, ben, y a un décalage entre la connaissance et l'attitude. Des fois, on voit des personnes, ils sont très équilibrés, ils ont une bonne connaissance et l'attitude, elle est... Ouf. Et des fois, c'est l'inverse. Pas de connaissance et une bonne attitude. Mais des fois, c'est bien d'avoir un peu de connaissance pour ne pas se laisser avoir. Il faut un bon équilibre dans la vie. Et le gnosticisme prétendait détenir une connaissance secrète de Dieu. Il considérait le Dieu de la Bible, notre Dieu, celui qui a créé toutes choses, comme un Dieu inférieur, car le monde matériel était mauvais. Donc le Créateur ne pouvait qu'être une divinité de moindre importance. Vous imaginez ça? Si on arrive à mettre ça dans la tête de quelqu'un, la personne elle est perdue. Ça voudrait dire que Dieu, comme il est parfait, c'est pas possible qu'il ait créé ici le monde parce qu'il y a des choses qui sont imparfaites. Et il y avait des dérives comme ça. Certains pensaient que Christ était une sorte d'onction ou de présence spirituelle qui était venue sur l'homme, Jésus, à son baptême. Donc Christ venu qu'au moment du baptême. Et il avait quitté avant sa crucifixion. D'après eux, il n'y avait aucune union durable entre la nature divine et la nature humaine en Jésus. Le vrai Christ n'ayant pas de corps physique. Ça, c'était les dérives qu'il y avait à Colosse. C'était les dérives du gnosticisme qu'il y avait à l'époque. Ça veut dire qu'on s'écartait complètement de la puissance divine de Jésus-Christ. Ça voulait dire clairement que Jésus... Christ n'est pas mort et ressuscité, c'est juste qu'il est parti juste avant. L'esprit est parti juste avant. Alors que non, Jésus est la vérité et Jésus est mort et ressuscité. Ça ne se limite pas, ce n'est pas limité. Jésus n'est pas limité. Et c'est important de le vivre et de le croire. Quand on regarde l'attitude de Jésus, il savait très bien qui il était dans son identité. Malgré les critiques, malgré les moqueries, il était toujours intègre dans son identité, il savait qui il était. Et nous, parfois, il suffit juste d'une petite moquerie et déjà on est déstabilisé dans notre identité. Alors regardons à Jésus. Il a vaincu la mort spirituelle, mais aussi physique. C'est-à-dire que les puissances des ténèbres qui voulaient tuer Jésus, ils ne l'ont pas eu. La mort physique qui voulait tuer Jésus, ils ne l'ont pas eu non plus. C'est une erreur de penser autrement. Et parfois, on est dans un courant, dans un monde, par rapport à diverses choses, par rapport à diverses idées, par rapport à diverses pensées, où parfois, les gens pourraient même mettre un doute en nous. C'est vrai. C'est comme les gens, il y a une parole qui dit que Jésus a été tenté en tout et pour tout, dans tous les domaines. Ça veut dire que les tentations que nous, on a pu avoir dans nos vies, Jésus les a eues, mais les a vaincues. Il n'a jamais chuté. Quand j'étais en entreprise, je travaillais à la chaîne, bon, il y avait des collègues qui venaient me titiller, ils me disent « Non, mais Claudio, c'est sûr que Jésus, il a dû chuter sur ce point-là, c'est sûr et certain, franchement, c'est la chair, c'est obligé. » Et moi, je leur disais « Non, mais non, c'est pas possible. » J'ai dit « C'est parce que toi, tu regardes avec ton regard d'homme charnel. Mais si on regarde à Jésus, il n'a pas chuté. Il est resté intègre. » Et là, les mauvaises idées, elles arrivent déjà là, dans ce domaine-là. Et c'est important de le croire. Et quand la Bible, elle dit « Je puis tout par celui qui me fortifie », c'est une réalité. La Bible même dit que Dieu ne permet pas qu'on ait des épreuves qui soient au-delà de nos forces. Et pourtant, Dieu sait que des fois, on vit des épreuves où on se dit « Pourquoi je vis ça ?» Et des années après, on dit « Franchement, je ne sais pas comment j'ai eu la force pour vivre ça. » C'est parce que Dieu a mis la force en nous. Même si c'est difficile. Mais c'est pas pour ça que nous, on a réussi, qu'une personne vit la même chose, qu'il faut commencer à lui dire « Oh, ça va aller ». Non, il faut être équilibré. Il y a un temps pour tout. Alors, on va voir quelques petites fausses idées qu'on a pu avoir. Moi, j'ai une petite anecdote. Une fois, j'ai eu une petite fausse idée, là. C'était à l'époque, moi, j'achetais toujours des Nike. J'aimais bien les Nike avec les bulles d'air autour, là, les TN. J'étais trop bien dedans. Et un jour, c'était un dimanche, c'était le culte à Noël, culte de Noël à l'église. Donc moi, je suis allé en mode costard-cravate. J'aime bien, moi, tout ce qui est costume, cravate. Et il y a un frère de l'église qui est venu me voir et qui m'a dit « C'est bien, Claudio. C'est bien. Je suis content de te voir habillé comme ça. » Parce qu'en plus, il fait « Toi, t'es pasteur stagiaire. Et tu sais, quand tu montes sur l'estrade, tu te dois d'être en costard et en cravate. » J'ai dit « Écoute, c'est bien, mais je suis pas à 100% d'accord avec toi. » Il me dit « Comment ça, t'es pas d'accord avec moi ?» J'ai dit « Ben Jésus, sur la croix, il était presque nu pour nous. Et il nous a sauvés. » Alors j'ai dit « C'est pas pour ça que je vais prêcher tout nu. Hein ? Déjà, j'ai pas un corps d'athlète, donc ça le fera moyen. Et là, ça serait vraiment un manque de respect. » Mais j'ai dit « C'est pas comment je suis habillé qui va faire quand je parle. C'est le cœur. C'est ta relation. C'est le fait que tu juges pas les gens. » Bon, la personne, elle m'a plus dit bonjour pendant une à deux semaines, mais après, c'est passé. Mais voilà. Après, je pouvais comprendre, parce qu'il a été éduqué comme ça. J'étais un petit peu trash, c'est vrai. Mais c'était une manière aussi de lui faire comprendre, voilà, c'est Jésus qui nous sauve. Et parfois, on est dans des circonstances où on se doit. Tu dois faire ci. Tu dois faire ça. Tu dois pas manger ci. Tu dois pas faire ça. Il faut, tu fais pas ça. Et des fois, ben, indirectement, on rentre dans des mauvaises idées qui, au final, peuvent peut-être même nous conduire à la condamnation. Parce que si on n'est pas dans la lignée de ce que Jésus veut, ben, on va être éloigné. Donc, est-ce qu'on pourrait en perdre notre salut? Dieu connaît notre cœur, mais on peut en perdre notre joie. Parce que des fois, on peut être sincèrement dans l'erreur. Les œuvres. Moi, j'ai des amis d'autres confessions, et des fois, ils disent « Ben, moi, il faut que je fasse ça. faut que je dois prier autant de fois. Ou d'autres qui me disent, non, moi je ne fête pas les anniversaires. Une fois, j'ai une témoin de Jéhovah qui est venue me voir et qui m'a dit, t'as demandé à Dieu si c'est bien de fêter des anniversaires? Et je lui ai dit, mais pourquoi toi tu ne fêtes pas les anniversaires? Elle m'a dit, bah, parce que la femme d'Hérode a demandé la tête de Jean-Baptiste. J'ai dit, c'est pour ça que vous ne fêtez pas les anniversaires? Elle a dit, oui. J'ai dit, bah, c'est bizarre, j'ai dit, parce que moi, quand je fête mon anniversaire, je ne réclame pas de tête. Je réclame, à l'époque, je réclamais des tortues ninja, je réclamais des jeux vidéo, des trucs cool, quoi. Elle m'a dit, ouais, mais il faut demander à Dieu, qu'est-ce qu'il en pense? J'avais envie de lui dire, si je lui demande, il va me souhaiter bon anniversaire. Et voilà, mais c'est des fausses idées. Et malheureusement, il se prive de se bénir, parce que quand on fait un cadeau à quelqu'un, on bénit. Après, il y a les idées, si tu allumes une bougie et que tu pries, Dieu, il va agir. Combien de fois on a aidé des amis pour prier et disaient, ben, t'as raison, et ben, ce soir, je vais aller allumer une petite bougie pour prier. Le cœur est sincère, le cœur est vrai. Peut-être même que Dieu lui permettra de se révéler, je ne sais pas, je ne juge pas. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Je ne pense pas. Une fois, j'ai dit à quelqu'un, j'ai dit, tu sais, quand tu pries, si tu commences à faire ci, à faire ça et là, si demain tu te fais persécuter, que tu es dans une prison, que tu es déshabillé, qu'est-ce que tu vas faire? Tu n'as pas de bougie pour prier. Tu ne vas pas prier? Mais la réalité, elle est là. On a un accès illimité à Jésus. Mais si on reste dans nos fausses idées, qu'est-ce qui va se passer? Ben, on va être bloqué. Moi, j'ai eu un souci au tout début de ma conversion. Je me suis converti à 15 ans et on a été en Italie avec ma mère. Et ben, comme j'étais en Italie, ben, je priais en italien. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Je me disais, en fait, j'avais du mal à dissocier le fait que j'étais dans un autre pays et la France. Que Dieu, c'est la même chose, que je lui parle en français ou en italien, c'est la même chose. Mais dans mon idée, j'étais jeune dans la foi, c'était difficile pour moi. Du coup, en Italie, je priais en italien, et en France, je priais en français. Et après, quand j'ai grandi, bah, des fois, dans certains combats spirituels, je sens que je dois prier en italien. J'ai pas d'explication pourquoi, et pourtant, je suis en France. Mais voilà, il faut un bon sens. Mais parfois, on se crée nous-mêmes des fausses idées, ou la société nous a donné des mauvaises idées. La société, la vie après la mort. Quand les gens qui parlent de réincarnation. Une fois, on m'a posé une question. Quand tu vas mourir, t'aimerais être quoi? J'ai dit, hein? Mais j'avais jamais eu cette idée-là dans ma tête. On me la rentrait dans la tête. Il y en a un, il me dit, moi j'aimerais être un oiseau, comme ça je peux voler. Je l'ai regardé, j'ai dit, tu veux pas être une chèvre? Hein? Voilà pour titiller. Mais ça, par contre, c'est une réalité. Qui n'a jamais eu une personne qui lui a dit ça? Ou lui dire, ouais, ben, avant, t'étais quoi à ton avis? Hein? Mais ça, c'est des pensées qui vont briser notre identité. Si on accepte ces pensées-là, ça va briser notre identité. Parce qu'au final, ça ne donne plus envie de vivre. Parce que si demain, moi je sais que demain je vais devenir un oiseau, que je pourrais voyager dans n'importe quel pays et que je suis un dépressif, bah ça va m'amener où? Bah autant mourir maintenant, je vais me transformer en oiseau, peut-être. Et après voilà. Mais ça, ce sont des fausses idées. Et c'est des idées qui commencent à conduire à la mort. Et parfois, nous on est dans une société où on a des idées qui nous conduisent à la mort. Plus déstabilisant. Ça, c'est la plus grosse fausse idée. Qui peut nous conduire en enfer. Oui, mais cette personne était très gentille et serviable. Elle sera auprès de Dieu, malgré le fait qu'elle n'a jamais accepté le Seigneur. Moi, j'ai déjà entendu ça. Mot pour mot. Et après, tu mets la chanson « On ira tous au paradis » pour rassurer la personne. Mais ça, c'est une fausse idée. Et c'est difficile d'en parler. Parce que quand on parle comme ça, les gens se sentent jugés et se sentent blessés. Mais c'est pas le but. Mais c'est de dire la vérité. Tu ne veux pas accepter Dieu. Tu ne veux pas reconnaître Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et tu penses que parce que tu as fait des bonnes actions, tu vas être sauvé. Mais là-haut, Jésus va te dire, non, je ne te connais pas. Et c'est difficile. Donc après, on peut prier, il faut respecter le choix de chacun. Mais la Bible, elle est claire. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Celui qui aura honte de moi, j'aurai honte de lui là-haut. Certes, nous devons avertir les personnes autour de nous, car la connaissance est mauvaise et fausse. Ils meurent dans leurs fausses idées. Parfois, on a des amis qui sont morts dans de fausses idées. Parfois, on a des amis qui restent dans de fausses idées. Mais quand ils reçoivent la révélation de Jésus-Christ, tout change. Même des gens, des fois disent, je ne sais même pas comment j'ai fait pour réussir à croire ça ou à penser ça. Et parce que le monde nous aveugle. Le monde nous aveugle. Il y a un cinquième point important, c'est que l'humanité a remplacé la vérité de Dieu par le mensonge. L'humanité nous ment. Tout ce qui ne croit pas en Dieu nous ment pour nous éloigner de Dieu. Bon, c'est un message un peu plus tranchant que d'habitude, mais c'est une réalité. Regardez ce que dit Romains 1, verset 25. C'était pour un contexte très particulier, mais rien que ce verset-là, on peut le prendre pour divers aspects. Eux qui ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Ils ont adoré la créature au lieu du Créateur. Ça ne nous est pas arrivé parfois d'aimer des choses plus que Dieu. En tout cas, avant de rencontrer Dieu, je suis sûr qu'on aimait des choses beaucoup plus que Dieu. Moi, c'était les jeux vidéo. C'est vrai, j'étais dans un monde où c'était une drogue. Hein. Vraiment, c'était une drogue. C'était mon seul refuge. C'était mon seul refuge. Et parfois, on regarde à la télé. Là, une fois, j'étais chez des amis et il y avait un ami qui avait mis la vidéo du concert de Michael Jackson. Tiens, ça c'est pour toi, JR. T'aimes bien Michael Jackson. Et j'étais abasourdi, quoi. C'est vrai que c'était classe, c'était bien. Mais le concert, il commence par 5 minutes de silence. On voit Michael Jackson qui monte comme ça, là, dans un espèce d'ascenseur qui est en dessous des strates, quoi. Et il reste comme ça et il bouge pas pendant franchement 5 minutes. Et on entend les fans qui commencent à crier, qui commencent à crier, qui commencent à crier. Et tout d'un coup, il bouge sa tête. Et au moment où il bouge sa tête, ça fait... Et il y a des fans qui s'évanouissent. J'ai dit, quelle onction. Mais, et c'est là où on voit qu'ils ont adoré la créature à la place du Créateur. Parfois, on peut adorer même des gens sans s'en rendre compte, au lieu du Créateur. Je me rappelle une fois avec Julien, on a été au Kinépolis, il y avait la venue de Jean-Claude Van Damme. On était dans notre délire, hop, et on s'est dit comme ça, bah, il vient tel jour à telle heure, est-ce que ça te dit qu'on y aille? Donc Julien me demande ça, je dis ok, on y va. Donc on y va, hop. McDo, comme d'habitude. On arrive, et je sais plus, je crois qu'il devait arriver à 18h. Bah, il a fait son Van Damme, quoi. Il est arrivé à 20h. On n'avait plus de jambes. On était fatigués. Pour nous, c'était un petit peu un plaisir, dans le sens où on aimait bien l'acteur, on l'adorait pas, mais on aimait bien. Et en plus, ce qui était marrant, c'est que bah, on n'avait jamais vu vraiment de grandes stars à la télé. Des fois, tu te dis, est-ce qu'il existe vraiment? Ou ça serait intéressant de le voir. Est-ce qu'il est grand? Est-ce qu'il est petit? Est-ce qu'il est vraiment musclé? Et il arrivait en limousine, son petit sourire. Alors, c'était marrant parce qu'on voyait qu'il y avait plein de femmes, mais ils étaient habillés comme Jean-Claude Van Damme. Ils étaient coiffés comme Jean-Claude Van Damme. Et même leur identité avait changé. Même leur identité avait changé. Et ils étaient tous là. Donc, à un moment, ils passaient dans l'allée pour qu'ils touchent la main de chaque personne. Et donc, nous, avec Julien, on dit, bon, on va le faire pour rigoler, quoi. Et il y en avait, ils pleuraient. Ils pleuraient. Jean-Claude! Jean-Claude! Et à un moment, je vois la main à Jean-Claude qui arrive comme ça. Et au moment où il arrive vers moi, il lève sa main et il serre la main à Julien. Mais je lui dis, c'est vraiment un beau gosse, lui. J'étais dégoûté. Donc, il m'a chambré un petit peu, et voilà. Mais je me suis dit, une fois plus jamais, quoi. Déjà, attendre 2 heures une personne, je la connais même pas, elle me serre même pas la main, ça sert à rien, là. Là, c'est manque de respect. Mais c'est là où on voit aussi que le monde peut nous induire très loin de Dieu. Je vous invite à lire Romains 1, verset 25 chez vous, et de lire un petit peu avant, parce qu'il y a un autre contexte dans ce passage-là. Lisez-le très sincèrement, lisez-le. Mais rien que le verset 25, ça peut se prêter autrement que juste le contexte de l'époque, sur nos situations et nos vies personnelles. Notre base, il faut que ce soit Christ, il faut qu'on regarde Christ. C'est-à-dire que même quand on lit l'Ancien Testament, il faut regarder avec le regard de Jésus-Christ. Et quand on lit le Nouveau Testament, il faut le regarder avec le regard de Jésus-Christ également. Colossiens 2, verset 11, c'est en lui aussi que vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite par la main de l'homme, mais de la circoncision de Christ qui consiste à vous dépouiller du corps de votre nature pécheresse. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de se dépouiller nous-mêmes, on n'a plus besoin de se flageller nous-mêmes, on n'a plus besoin de faire ci et ça, c'est Jésus qui a tout pris à la croix. La Bible dit que nous sommes sauvés par grâce. Mais la Bible dit aussi que la foi sans les œuvres est vaine. Mais que les œuvres sans la foi, c'est pas bon non plus. Donc il faut un bon équilibre. C'est pas pour ça qu'on doit faire n'importe quoi, c'est pas parce qu'on est sous la grâce qu'on doit faire n'importe quoi, il faut un bon équilibre. Bruno l'a dit encore ce matin, il y a aussi une notion où des fois on doit sacrifier certaines choses pour être près de Dieu. Ainsi donc, dans Romains 5, versets 18 à 21, « Ainsi donc, de même que par une seule faute, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte d'acquittement, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. En effet, tout comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, beaucoup seront rendus justes par l'obéissance d'un seul. » Un seul homme pécheur. On en a subi les conséquences, mais un seul homme qui nous a sauvés, Jésus-Christ. L'intervention de la loi a entraîné la multiplication des fautes, mais là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. Ainsi de même que le pécheur a régné par la mort, de même la grâce règne par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ, notre Seigneur, un pécheur, un sauveur. Regarder à Jésus, c'est le plus important. Je vais juste prendre ça ici. Après, je vais vous partager un petit exemple. Voilà. Il y a une chose qui est importante, c'est notre relation avec Jésus. L'esprit de vérité et l'esprit de l'erreur. Il faut savoir quand on est dans la vérité et quand on est dans l'erreur. Mes bases, je sais ce que je vis dans ma relation avec Dieu et au travers de sa parole. C'est-à-dire que quand tu vis des temps intimes avec Dieu, tu sais que tu n'es pas en train de te faire un trip. Tu sais ce que tu vis. Parce que parfois, le monde va te dire, non mais ça c'est l'émotion. Et tu vois, quand tu as des émotions, tu ressens ça, tu ressens ci, tu vois ci. Mais non, la réalité c'est quand tu pries, Jésus il agit. Quand tu cherches ta face, Jésus il agit. Et c'est ça aussi où il faut faire attention aux fausses idées. Des fois, on dit les frissons. Qui a déjà ressenti des frissons? Des frissons à cause de la fenêtre qui est ouverte. Mais qui déjà a reçu déjà ressenti des frissons à cause de la peur? Mais des fois, on ressent des frissons parce que Dieu nous visite. Et c'est là où on a besoin du discernement. Et c'est pas juste une sensation. Il se passe quelque chose. Je me rappelle une fois, avec Caron, on a été prié pour quelqu'un. Et c'était un couple pastoral. Et la femme du pasteur avait des difficultés au niveau de l'attention. Sa tension, elle n'était jamais stable. Et moi, j'ai eu à cœur d'y aller. Et j'hésitais parce qu'en fait, ils ont annoncé à la pastorale que la dame était malade. Et j'ai vraiment eu à cœur d'y aller. Donc j'y suis allé et c'est vrai que je me disais, est-ce que j'ai pas eu à cœur parce que j'en ai entendu parler? Donc j'en discute avec mon pasteur et il me dit, non, il fait, vas-y. Fais dans le pire des cas. Fais, t'y vas. Fais, c'est pas quelque chose de mauvais, vas-y. Et on a été. Et quand on est rentré dans la maison, donc moi je suis rentré en premier et Caro elle est rentrée. Et on s'est assis et on a discuté et on a prié. Caro elle a prié pour la dame. Et la dame, elle a dit, quand Caro est rentrée, j'ai eu des frissons qui sont venus dans tout mon corps. Et la dame, elle n'a plus de soucis de tension. C'est parti. Donc avant même qu'on prie, je suis convaincu que Dieu avait agi. Parce qu'on a obéi. Donc elle a eu des frissons. Mais il s'est passé quelque chose. Parce que Jésus-Christ, c'est la puissance. Jésus-Christ, c'est la victoire. Jésus-Christ, c'est celui qui guérit. Et on doit refuser les mauvaises pensées qui voudraient nous faire croire le contraire. Voici ce que dit le passage ici dans 1 Jean 4, versets 1 à 6. Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais mettez les esprits à l'épreuve pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs prétendus prophètes sont venus dans le monde. Voici comment identifier l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui reconnaît que Jésus est le Messie venu en homme est de Dieu. Donc rien que cette phrase-là, on peut l'apprendre par cœur, la garder dans nos cœurs pour toujours, parce que le jour où quelqu'un vient nous apporter d'autres idées, on sait que l'Esprit de Dieu, tout esprit qui reconnaît que Jésus est le Messie venu en homme est de Dieu. Quelqu'un qui te dit l'inverse risque de t'apporter une mauvaise pensée, risque de t'induire en erreur. Donc tu peux l'écouter, mais tu es libre d'accepter ou de refuser et de lui confirmer aussi ce passage-là. Et si un esprit ne reconnaît pas que Jésus est le Messie venu en homme, il n'est pas de Dieu, c'est l'esprit de l'Antichrist. Il est sévère là. Nous on dit ça aujourd'hui, on est mal, mais déjà à l'époque. Vous avez appris sa venue et maintenant déjà, il est dans le monde. Vous voyez comment il était tranchant en pêche? Bon, on ne se permettrait pas de dire « Oh, t'as un esprit d'antichrist !» Mais il nous avertit. Et regardez là l'amour qu'il y a derrière. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous avez vaincu ces prétendus prophètes parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en nous, Jésus-Christ, est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est dans le monde, on parle du diable. Eux, ils sont du monde. Voilà pourquoi ils parlent d'après le monde. Et le monde ne les écoute pas, ne les écoute. Et c'est vrai. Quelqu'un qui ne connaît pas ce que nous, on connaît, il est perdu. Et donc, nous, des fois, on n'arrive même pas à comprendre son langage. Et lui, n'arrive pas à comprendre notre langage. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est ainsi que nous identifions l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. C'est fort, hein? Donc, je voulais vous expliquer une petite chose. Ce qui est important, c'est que avoir de la connaissance, c'est important également. Puisque la Bible dit « Mon peuple meurt par manque de connaissance ». Donc il ne faut pas négliger la connaissance. Mais il ne faut pas s'y perdre non plus. Mais avoir la foi en Christ et savoir l'identité correctement en Christ, c'est important également. Voici ce qui se passe. Là, c'est la connaissance. Là, c'est la foi. On est sur notre rocher, Jésus. Un petit berger, c'était pas prévu. À la base, c'était un boxeur. Parce qu'on combat le bon combat. Et c'est important. On doit combattre le bon combat. Et donc, quand on est là, ici, avec Jésus, et qu'on est équilibré, connaissance, foi, relation avec Dieu, même si on bouge, on ne va pas tomber. D'accord ? Même s'il y a des petits tremblements, on reste toujours là. Mais si on commence à privilégier la connaissance, hop, on commence déjà un petit peu à glisser d'un côté. Et on va perdre notre foi. Parce que des fois, trop de connaissances nous mènent aussi à nous embrouiller. Est-ce qu'il faut prier comme ça ? Est-ce qu'il faut faire ci ? Moi, des fois, je devenais fou, j'arrêtais de regarder des vidéos sur YouTube, moi. Et si, trop de connaissances, et on tombe. Et ça marche dans l'autre sens. Hein. Si tu as une bonne base de connaissances, mais que ta foi, ta relation avec Dieu, tu la vis plus, eh ben tu vas tomber aussi. C'est pour ça qu'il faut avoir un bon équilibre. Mais si on fait attention aux fausses idées, parce que la condamnation est réelle, tu peux avoir des bons enseignements. Tu peux vivre ta foi avec Dieu. Et rester stable. Et c'est ce que Dieu veut pour nos vies. Une stabilité. Une stabilité. Alors, c'est pas toujours facile. Il y aura des moments où on va moins bien comprendre. Et donc, du coup, on va mieux comprendre. Mais mettre la foi... Parce que comprendre d'imposer les mains aux malades et les malades seront guéris, on le comprend. Mais quand tu es devant... plus difficile. Comprendre que il faut tendre l'autre joue quand on te met une gifle, tu le comprends, mais le faire par la foi, c'est plus difficile. T'as la connaissance, mais ta foi après elle est où? Mais c'est une réalité. Je prends des choses vraiment très, très terre à terre. Parce que la théologie, c'est pas mon truc. Mais c'est important. Alors, je vais vous partager une vidéo. Si c'est possible de la mettre, Branley. Et cette vidéo, donc, ça montre divers aspects de la vie. Mais donc, ça montre l'argent, l'alcool, la mort. Mais voyez cela aussi avec les mauvaises idées qu'on peut avoir dans notre vie. Et regardez ce que Jésus a fait pour nous. Jésus, et le monde commence à t'attirer, commence à te donner des idées, à te montrer que c'est mieux ailleurs, ou à te faire croire que c'est mieux ailleurs. Et tout à petit, tu perds ton identité, et tu t'éloignes de Dieu. Le monde peut te proposer de l'argent, te dire si tu fais ça, tu vivras mieux, tu n'auras plus le souci du lendemain. Et parfois, on est tellement... dans plein de fausses idées, ça devient trop difficile pour nous, pour notre chair, et on part dans diverses dérives. comme nous. Mais regarde, hein, Jésus. Parce qu'au final, ça nous amène à la mort. Amen. Je vous invite à vous lever, on va prier. Mais la vidéo est forte. Hein. Vraiment, c'est... Seigneur Jésus, nous voulons, Seigneur, te demander pardon, Seigneur, pour les fois où on s'est peut-être laissé aller par de mauvaises idées, Seigneur, où on s'est peut-être égaré, Seigneur. Même si dans nos cœurs on était sincères, Seigneur, parfois on peut être sincèrement dans l'erreur, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à regarder à la croix, Seigneur. Aide-nous à regarder à toi, Jésus, Seigneur. Tout comme, Seigneur, tu t'es révélé, Seigneur, aussi, Seigneur, à Pierre, Seigneur, quand il a vu, Seigneur, ce tapis flottant avec tous ces animaux impurs, Seigneur, tu voulais lui faire comprendre que le salut était pour tous, Seigneur. Et, Seigneur, c'est pas facile, des fois, de se laisser modeler, Seigneur, par toi, Seigneur. Je te prie, Seigneur, pour que tu puisses nous aider, Seigneur. Que tu puisses faire en sorte que nos cœurs soient musclés, Seigneur, pour toi. Que notre foi soit musclée pour toi aussi, Seigneur. Qu'on puisse chercher ta face encore, Seigneur. Discerner ce qui vient de toi et ce qui ne vient pas de toi, Seigneur. Et qu'on puisse être équilibré, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu nous parles ce matin, Seigneur. Je suis convaincu, Seigneur, que tu révèles des choses, Seigneur, dans les cœurs de chacun, Seigneur. Parce que tu es un Dieu de grâce. Merci Seigneur, parce que t'es pas là pour nous condamner, Seigneur. Mais t'es là, Seigneur, pour nous montrer la vérité, Seigneur. Tu es la lumière, Seigneur. Tu nous éclaires, Seigneur. Même quand parfois on peut se tromper, Seigneur. Mais Seigneur, on veut ne pas se laisser influencer, Seigneur, par les pensées du monde, Seigneur, par les pensées religieuses, Seigneur, par les choses, Seigneur, qui nous éloignent de ton cœur, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. À toi toute la gloire, Seigneur, et bénis notre semaine, Seigneur. Sois loué, Jésus. Amen.